Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En République démocratique du Congo, l'armée congolaise a reconnu la perte de 30 militaires dans sa toute dernière offensive contre les rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées dans l'est du pays. Ce groupe armé sème la terreur dans la région depuis des années. Eric Manirakiza.
L'armée congolaise affirme avoir conquis jeudi le QG des ADF à Madina, dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le major Mark Hazukai, son porte-parole dans la région, a aussi reconnu 70 blessés. Du côté de l'ennemi, 40 ADF ont été neutralisés, dont 5 leaders, a-t-il poursuivi. Des armes ont également été récupérées, selon la même source qui qualifie les ADF d'intégristes islamistes. Près de 150 civils ont été tués en émoi dans des représailles des ADF sur les populations dans le territoire de Beni. L'armée congolaise arrive petit à petit vers Mbao Kamango, un des fiefs des ADF au nord de Beni, vers l'Ouganda, a ajouté le porte-parole militaire. L'axe Mbao-Kamango est au cœur d'une zone appelée le Triangle de la Mort en raison des exactions des ADF. Des habitants de Beni avaient saccagé fin novembre une base civile de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO en accusant les casques bleus d'inaction face aux violences des ADF. Les autorités congolaises et la MONUSCO avaient par la suite annoncé des opérations conjointes.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Réunion aujourd'hui à Pau en France entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, organisation anti-djihadiste qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. À l'ordre du jour, entre autres sujets, la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste ainsi que la présence militaire française dans la région. Au micro d'Éric Manirakiza, l'analyste politique Ibrahima Kan appelle la France à clarifier sa position au Sahel.
Cette conférence est convoquée par la France pour procéder à des clarifications. Je pense que la première clarification qu'il faudra faire à cette réunion, c'est quel est le rôle de la France dans cette lutte. Est-ce aider les pays à vraiment réduire, parce que je pense que éradiquer le terrorisme dans la région est quelque chose de très difficile à l'heure actuelle et ça prendra énormément de temps, mais aider les pays à mieux s'organiser et à mieux défendre leur territoire contre les attaques djihadistes. Ça, c'est la première chose. Aider les pays à surtout protéger leur intégrité territoriale, préserver leur intégrité territoriale, parce que dans le cadre du Mali, le sentiment qui se dégage dans la population est que la France fait tout pour que les Touaregs aient un territoire. Et ça, il faut dissiper ces malentendus.
Ibrahima Kan, analyste politique joint à Dakar au Sénégal par Eric Manirakiza. Violence dans le Sahel toujours. Au Niger, nouveau bilan de l'attaque du 9 janvier contre la position militaire de Chiné Godar près du Mali. On compte désormais 89 soldats tués au lieu des 25 annoncés précédemment suite à cette attaque, selon le gouvernement qui a décrété un deuil national de 3 jours. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le gouvernement nigérien aura donc mis presque 48 heures pour confirmer une information qui a fait le tour de la toile depuis que des parents de victimes partis au carré des martyrs pour les obsèques des militaires décédés le 9 janvier dernier à Chiné Godar ont indiqué avoir dénombré 89 corps au lieu des 25 annoncés dans le premier bilan.
Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ami, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. Cette douloureuse...
Le ministre porte-parole du gouvernement annonce également un deuil de 72 heures à compter de ce lundi, date prévue pour la rencontre entre le président Emmanuel Macron et les 5 chefs d'État du G5 Sahel dans la ville française de Pau, une rencontre sur la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Ici à Niamey, beaucoup de citoyens se demandent si après un tel drame, le président Issoufou doit se rendre à cette rencontre.
Que Dieu bénisse le Niger.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Gambie, des milliers de personnes ont défilé dimanche près de Banjul, la capitale, en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow, malgré son engagement initial à ne servir que 3 ans. Cette manifestation intervient moins de mois après que des milliers d'autres Gambiens sont descendus dans la rue pour réclamer que le président tienne son engagement de 2016 et quitte le pouvoir sans attendre. Ce rassemblement ouvre une séquence de manifestations dans les prochains jours dans un pays sorti il y a 3 ans de la dictature de Yahya Jammeh. Les supporters de Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression, comptent manifester le 16 pour son retour d'exil. Les partisans d'un départ de M. Barrow entendent faire de même quelques jours après.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit en Libye, un cessez-le-feu à l'initiative de la Turquie et de la Russie est entré en vigueur dimanche dans le pays après plus de 9 mois de combat aux portes de la capitale Tripoli. Ces violences ont suscité la crainte d'une internalisation accrue du conflit. Jean-Roger Bion.
L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril sans succès de s'emparer de Tripoli, a proclamé ce cessez-le-feu peu avant son entrée en vigueur prévue à minuit. Son rival Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, GNA, basé à Tripoli, a annoncé quelques heures plus tard qu'il acceptait lui aussi une cessation des hostilités, tout en soulignant le droit légitime de ses forces de riposter à toute attaque. La mission de l'ONU et la Ligue arabe se sont félicitées de ces annonces, appelant les deux camps à respecter le cessez-le-feu et à relancer le processus politique. Dimanche, Ankara a estimé que les deux parties s'efforçaient de respecter la trêve, évoquant une situation calme dans un communiqué du ministère de la Défense. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu intervient après un intense ballet diplomatique mené par la Turquie et la Russie, devenus des acteurs clés. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine avaient pris l'initiative mercredi d'appeler les deux camps rivaux à cesser les hostilités.
Au Tchad voisin, les partenaires sociaux et le gouvernement ont paraffé un accord et ont abouti à la suspension de la grève dans le secteur public. Arrêt de travail qui avait paralysé l'administration pendant 2 jours la semaine dernière. Les grévistes revendiquaient leur salaire, primes et indemnités coupées depuis 2016. Quelques réactions de travailleurs recueillies par notre correspondant N'Djamena André Kodmajinga.
Dans cet accord dont la VOA Afrique a eu copie, le gouvernement s'engage à payer 35% des augmentations générales spécifiques AGS en 2020, à rétablir 35% des primes et indemnités en 2020 et 15% en 2021, à rétablir le gel des effets financiers des avancements et reclassements en 2020. En ce qui concerne le paiement des frais de transport, voici la position du gouvernement. Oumar Yahya Hissen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Les économies qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et de l'audit des diplômes seront affectés au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le gouvernement de façon graduelle. Dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut Comité Technique Tripartite HCTT mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable dans un délai n'excédant pas 45 jours.
Nous avons atteint nos objectifs. Nos revendications sont satisfaites.
Barka Michel est le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative.
Nous sommes prudents parce que nous avons déjà signé des papiers qui sont restés lettres mortes. Le gouvernement nous demande d'aller vers la signature d'un pacte social. Ce pacte social est un document important pour nous. Dedans, nous avons un certain nombre de choses qui doivent engager le gouvernement parce que si nous nous engageons à maintenir la paix sociale sans grève, il faut qu'il y ait la contrepartie, non?
Quelques responsables de la cellule départementale du syndicat des anciens du Tchad se prononcent sur cet accord.
Si la plateforme a appelé à la reprise, c'est pour que les élèves partent à l'école. Mais si le gouvernement n'est pas conscient, c'est lui qui tirera les conséquences de ce qui adviendra. Depuis 3 ans, c'est la merde. On ne peut pas continuer comme ça. Nous verrons d'ici 2-3 jours.
Si le gouvernement tient bien parole, ça sera mieux. Mais s'il ne tient pas parole, je pense que nous, on ne se laisse pas faire. Et on demande aux militants d'être vigilants. Les frais de transport, on a dit en 2020, des gens qui ont 2 mois de frais de transport, d'autres 1 mois. 13 mois, cela veut dire que chaque 3 ans, le fonctionnaire a 1 mois de son salaire. Des gens qui ont fait 6 ans, mais ils n'ont pas ces frais de transport.
Si le gouvernement et les responsables syndicaux ont trouvé un compromis qui a permis de suspendre la grève dans le secteur public, les tenanciers de bars et alimentation durcissent leur position. Ceux de N'Djamena observent une grève de 2 jours à partir de ce lundi en fermant bars et alimentation. Par contre, ceux de Mondou, capitale économique du Tchad, décide de fermer boutique toute la semaine pour protester contre l'augmentation des prix des produits des brasseries du Tchad. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Allez chérie, comme